mardi 14 mai, des élèves de terminale du lycée Honoré d'Urfé de Saint-Étienne se rendaient à Lyon au Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation, le CHRD. C'est à l'invitation de la LICRA Saint-Étienne et en tant que lauréat du prix Violette Maurice 2024 qu'ils ont pu visiter ce lieu de mémoire et notamment l'exposition Jean Moulin, Les Voix de la Liberté. Radio Ondaine vous invite à écouter un reportage sur cette journée avec tout d'abord Aya, Lina et Gauthier qui nous parlent de leurs travaux autour de Victor Schwelcher, sous-secrétaire d'État aux colonies, qui a rédigé et signé le décret d'abolition de l'esclavage par l'État français du 27 avril 1848, qui était donc à l'honneur pour ce prix Violette Maurice. Mais c'est quoi ce prix Violette Maurice pour vous ?
C'est notre professeur Madame Oudjif qui nous a expliqué le thème. Et après, il y avait un intervenant de la LICRA qui est venu aussi nous expliquer le sujet. Et ça fait depuis l'année dernière donc, qu'on participe au concours de la LICRA. Et moi, avant ça, je ne le connaissais pas. Je l'ai vraiment connu en cours d'histoire. Et par la suite, du coup, ça m'a intéressé. Et vu la détermination de ma professeure à vouloir gagner, j'ai aussi voulu gagner ce concours.
Quel était le thème de cette année 2024 ?
Alors, du coup, nous, notre thème, en tout cas, qu'on a eu pour notre classe, c'était Victor Schwelcher et tout ce qui est en rapport avec l'abolition de l'esclavage, du coup.
Alors comment on travaille autour de ce personnage, de Victor Schwelcher? Vous avez abordé ce sujet en cours? Quels ont été les différents éléments que vous avez étudiés?
Premièrement, c'est mis par groupe de trois. Et on pouvait le montrer, genre exprimer ce sujet comme on le voulait. Et moi, avec ma collègue, on l'a exprimé par journal, comme si c'était les nouvelles.
On a trouvé que c'était plus facile de comprendre avec un journal parce que ça parlait à tout le monde et du coup on l'a exprimé vraiment avec un langage simple pour que même les plus petits puissent comprendre. Et dedans on a mis par exemple des mots croisés, des choses comme ça, histoire que tout le monde puisse comprendre et voir qui était Victor Schwelcher.
Gauthier, c'est une autre approche, cette fois-ci une approche en musique.
Oui, c'est vrai qu'avec mon groupe on a fait une approche musicale. Après il y a plein de médiums qui ont été utilisés par les groupes de notre classe. Et nous, c'est celui qui nous a parlé le plus.
Quels ont été les autres moyens de parler de Victor Schwelcher si tu te fais porte-parole du reste de la classe?
Eh bien, il y a eu le journal, il y a eu de la BD, il y a eu des dessins, et voilà, il y a eu des discours aussi.
Alors, qu'est-ce qu'on y met? On va rester sur la musique. Qu'est-ce qu'on met en musique? Parce qu'effectivement, il y a ce côté anachronique, une musique un peu moderne, j'imagine, sur un sujet un peu plus ancien. On parle du 19e siècle.
Eh bien oui, du coup, déjà, on peut dire qu'il y a un mélange de genres. On parle d'une époque qui est passée dans un style moderne, mais il y a aussi tout un travail du coup, de recherche sur Victor Schwelcher, comment on peut mettre des mots et que ça soit compréhensible par tout le monde.
Alors ces mots-là, que ce soit pour le journal ou pour cette chanson, à quoi on fait attention? Qu'est-ce que l'on regarde? Quel champ lexical on utilise et quel message on fait passer?
Eh ben, on essaye le plus, en tout cas mon groupe c'est ce qu'on a fait, je pense que les autres aussi, c'est de se rapprocher du langage de l'époque. On cherche des dates, des éléments et voilà.
Alors pour le journal, pareil, est-ce qu'il y a une mise en page particulière? Est-ce que vous avez mélangé les époques? Expliquez-nous un peu, décrivez-nous un peu ce journal, comment il se présente physiquement.
Nous déjà, on s'est appuyé sur le nom d'un journal de l'époque, donc la Gazette de Paris. Et après, on a opté pour un style de journal un petit peu plus new-yorkais, vintage, tout ça, parce que c'était un style un petit peu ancien. Donc on a voulu un petit peu faire comme si c'était un journal de l'époque, pour plus comprendre que c'était pas quelque chose qui datait d'aujourd'hui, mais qui datait des années 1800-1900. Et après, on s'est quand même appuyé sur un style un petit peu plus récent pour montrer que c'était un travail qu'on avait fait dans ces années-là et que pour que ça parle au plus de monde et que ça touche le plus de personnes possible.
Alors si l'on parle des sujets traités dans les articles qui sont dans votre journal et même les mots croisés, qu'est-ce qu'on y retrouve dedans? Expliquez-nous.
Premièrement, on y trouve sa biographie et les actes qu'il a fait pour libérer les esclaves. Et
après aussi, on a rajouté des témoignages. Je suis allée dans des archives sur Internet pour trouver des témoignages, par exemple en Angleterre et que j'ai traduit donc en français, pour montrer la situation des esclaves à cette époque. Et après aussi, on a essayé de retracer sa vie sous forme d'histoire pour que ce soit plus facile à lire. Et après, on a mis des images aussi que Aya a dessinées pour habiller un petit peu le journal.
J'avais dessiné avec la peinture acrylique un arbre. où il y avait toutes les libertés de l'homme et ses racines.
Alors quand on travaille un sujet tel que celui-ci, en classe et même on le travaille en dehors, hein, parce qu'on fait des recherches, j'imagine, à la maison, etc. Comment on s'y implique ? Est-ce que c'est l'envie de gagner le concours ? Est-ce que c'est aussi l'envie de découvrir un personnage qu'on ne connaît pas forcément ? Expliquez-nous un peu tout ce qui amène à la motivation pour la finalisation de ce projet.
Eh ben, bien évidemment, au début, il y a l'envie de gagner. Mais après, plus on est dans l'épreuve, plus on se rend compte qu'on a envie de découvrir un peu l'histoire du personnage et comment est-ce qu'on en est arrivé à notre époque actuelle.
Alors justement, qu'est-ce qui t'a marqué, qu'est-ce qui vous a marqué sur ce personnage, sur Victor Schwelcher ?
Eh ben, son histoire et la bravoure qu'il a eue pour les actes qu'il a commis par la suite. Ben, en effet, il a fait beaucoup d'actions à une époque où c'était pas simple de parler de l'esclavage et de la décolonisation, du coup, il a eu beaucoup de courage pour ce qu'il a fait.
Mais aussi sa détermination, car lui-même n'est pas homme noir, et il a quand même combattu pour les droits des autres.
Et moi aussi, j'ai vu qu'au tout début, il n'était vraiment pas issu d'une famille qui défendait l'esclavage. Ils étaient plutôt commerçants et tout ça, donc il avait plutôt une carrière dans le commerce. Et moi, ça m'a plu, en fait, quand j'ai vu que c'était par conviction et vraiment, c'était vraiment quelque chose qu'il voulait défendre. Donc c'est pour ça que je me suis vraiment mis à fond dans ce thème et que j'ai vraiment eu l'envie de gagner.
Le concours et la délibération et la remise des prix a eu lieu dans les salons de la préfecture de la Loire. C'était il y a quelques semaines. Ça fait quoi de se retrouver ici dans ce lieu représentatif de l'État ?
Ben, premièrement, c'est impressionnant parce qu'on peut... C'est très grand, il y a beaucoup d'espace et c'est un peu intimidant, mais on arrive avec fierté parce qu'on sait qu'on n'est pas là pour rien.
Le fait de se retrouver en public avec des personnalités aussi qui viennent assister, qu'est-ce que ça procure ? Est-ce que voilà, on se dit que bon, le travail a été bien fait et qu'on est content d'être récompensé ?
Bah, on est un peu honoré et surtout qu'on a eu la chance de participer à ce concours et en plus on y a gagné, c'était très remarquable.
Alors, on en parle comment à la maison, avec les copains, etc. Est-ce qu'on en parle d'ailleurs ?
Bah, moi, personnellement, oui, j'en ai parlé à mes parents. Ils savaient déjà que je participais au concours. Mais après, je leur avais pas dit que j'allais à la préfecture parce que je pensais pas gagner le concours au tout début. Et donc, une fois que j'ai gagné, bah, j'ai directement envoyé un message à ma famille parce que j'étais contente, j'étais fière. Parce que c'est quand même, on était dans les salons de la préfecture, c'est quand même un petit peu de prestige. Et même si c'était stressant, c'était plutôt une bonne expérience.
Alors, c'est... la récompense en ce mardi 14 mai, la récompense est donc cette sortie et cette visite du CHRD, le Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation, c'est à Lyon. Est-ce que vous avez déjà avant cette visite-là commencé à étudier ce lieu ?
Oui, en effet, on a dû l'étudier en classe pour essayer de mener la visite au mieux. Et on a même eu maintenant des élèves guides qui sont derrière, qui sont Liamine. Et Yamine et Arsène, et aussi Aya et Lina.
Élève guide, comment on étudie ce lieu où avez-vous fait les recherches et puis qu'est-ce que vous allez faire du coup dans le programme de cette journée ?
Bah, nous, c'était sur le site officiel qu'on a vu toutes les informations. Bah, nous, personnellement, avec ma camarade Lina, on va présenter Jean Moulin et sa vie, et l'autre groupe va présenter Lyon avant la guerre.
C'est Rabia Oudif, professeure d'histoire-géographie du lycée Honoré d'Urfé, qui a accompagné ses élèves pour le prix Violette Maurice de la LICRA Saint-Étienne.
C'est Florence Boudousset qui m'en a parlé une fois parce qu'elle était venue présenter et travailler sur les discriminations en classe. Et ça s'est venu naturellement, en fait. On en a parlé, elle m'a expliqué que c'était intéressant. Et pour les élèves, quand j'aurais proposé, ils étaient assez motivés pour faire ce travail, notamment parce que ça correspondait à leur région, à leur ville, et donc ils étaient motivés pour ce type de travail, et puis ça les mettait en concurrence avec d'autres élèves, donc ça leur a plu, sachant qu'il y avait la bonne note derrière, et puis c'est de bons élèves, c'est vraiment de très bons élèves qui participent à tous les projets.
Cette année, prix à Violette Maurice, autour de Victor Schwelcher. Comment on le présente, ce personnage ? Est-ce qu'il est dans le programme, d'ailleurs, de vos élèves ?
Alors, dans le programme, il y a un petit peu, pas énormément, on en a parlé un petit peu, c'est pour ça que le prix Violette Maurice était l'occasion aussi d'en reparler, d'en discuter avec les élèves, surtout que c'est eux qui ont fait l'essentiel du travail, donc c'est eux qui ont fait les recherches, qui ont présenté, qui ont organisé et qui en ont parlé un petit peu en classe. Donc l'essentiel du travail vient des élèves qui étaient intéressés par ce personnage, étant donné que dans le programme, on n'en parle pas énormément.
Alors, vous le disiez, et puis on a entendu les élèves tout à l'heure le dire aussi, que effectivement, ce côté concours motive, émotive, à travailler aussi chez soi, à faire des recherches à la maison. Dans les pistes que vous avez pu leur donner, quelles étaient-elles, ces pistes-là? Est-ce que vous aussi, vous avez fait des recherches aussi pour pouvoir les guider au plus juste?
Alors non, j'ai offert aucune piste parce qu'ils sont assez grands, ils sont en première et en terminale et l'objectif c'est de leur apprendre à travailler en autonomie pour les préparer aux années supérieures. Donc non, ils ont vraiment travaillé en autonomie en groupe de 3, voire de 4 quand le chiffre était impair. Mais non, c'est un travail en autonomie, en indépendance, ça leur permettait de faire des recherches, de faire un travail d'historien, de trouver les sources, de pouvoir travailler sur du numérique, sur du traitement de texte. Non, en autonomie totale, donc ils sont venus simplement pour que je corrige quelques fautes, mais vraiment la mise en page, la chanson qui a gagné justement au concours, tout ça venait d'eux, tout, la composition, la chanson, tout venait d'eux. J'ai juste conseillé en les guidant simplement sur ce que j'attendais d'eux, mais sans plus.
Alors ce regard de professeur, effectivement, quand on voit ces différents supports, le journal, la BD, la chanson que vous venez d'évoquer, est-ce que vous êtes surprise aussi des fois par l'approche que ces élèves peuvent avoir avec leurs conditions d'adolescence sur un sujet qui date de plusieurs dizaines d'années
Alors, surprise non, parce que la plupart des élèves ont chacun une spécialité. Par exemple, celui qui a écrit la chanson et fait la musique travaille dans la spécialité musique, dans l'option musique. Pour la BD, c'est une élève qui travaille dans la spécialité. Donc, je leur ai demandé de mettre en avant leur qualité, leur créativité. Et donc, non, absolument pas surprise, parce qu'ils sont assez imaginatifs, assez créatifs, et ils aiment bien moderniser un peu, parce que l'histoire, pour eux, c'est quelque chose de très vieux, très, très ancien, pour les vieux, comme ça, leurs professeurs. Donc, non, ça vient, enfin, toute leur créativité, pardon, et de ce qu'ils sont capables de moderniser et d'apporter leur regard à eux.
Justement, leur regard à eux sur cette question-là, par rapport au regard que nous, on peut avoir, est-ce que vous avez noté peut-être des approches différentes sur ce sujet, sur l'esclavage?
Ce qui les a marqué surtout, c'est que ça reprenait en fait l'esclavage moderne dans différents pays d'Afrique, dans différents pays d'Asie. Et qu'en fait, ils ne comprenaient pas pourquoi, malgré toutes ces années, malgré tous les progrès qu'ils avaient pu y faire, en fait, on revenait toujours à la même situation, à savoir que les gens sont toujours discriminés, les gens sont toujours maltraités. Et donc, ça leur a fait un petit pincement au cœur en disant que même si on était en 2024, fondamentalement, les choses ne changeaient pas dans certains pays, même en France, ils considéraient qu'il y avait beaucoup de discrimination et que dans un pays des droits de l'homme, c'était pour eux assez surprenant de voir en fait que malgré toutes les lois, ça ne changeait pas énormément.
Au-delà du concours et du prix Violette Maurice et du fait qu'il y a cette sortie au CHRD, Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation à Lyon, comment on s'appuie sur cette récompense ensuite, sur le reste de l'année et même au sein de l'établissement?
Alors là, par contre, ce qu'on va visiter, en fait, les expositions qu'on va visiter, c'est dans le programme. On a travaillé sur la Résistance, on a travaillé sur la Seconde Guerre mondiale et Charles de Gaulle. Et là, donc là, ça leur permettra d'avoir un point plus local, de se rapprocher, d'avoir le territoire de proximité et de comprendre, en fait, que l'histoire, ça se vit sur un territoire. Et donc, ils sont assez contents de voir. Et puis, ils ont participé aussi. Là-dessus, ils ont travaillé, ils vont jouer un petit peu les guides et ça leur permettra d'être acteurs de leur récompense et pas simplement... Des attentistes en attendant de voir tout ce qui va se passer.
Dans le train pour se rendre au CHRD, c'est Faten et Myriam, lauréates du prix Violette Maurice il y a 2 ans, qui nous en parlent.
C'est une opportunité de pouvoir concourir avec toutes les classes qui sont dans différents secteurs à Saint-Étienne. C'est aussi une opportunité car on en apprend davantage chaque année. L'année dernière, malheureusement, on a joué mais on n'a pas gagné. Mais cette année, c'est quand même la deuxième fois que l'on gagne. C'est alors une réussite pour nous chaque jour.
Alors, ce n'est pas forcément dans le programme de vos années, hein, que ce soit en seconde, première ou terminale. Il y a des sujets qui vont ressembler, avec des thématiques qui vont se rapprocher. Qu'est-ce qu'on apprend en plus quand on participe à un concours comme ça, qu'on fait des recherches?
Je pense que ça permet d'approfondir des fois, quelquefois, des thèmes qu'on étudie en classe. Et moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que du coup, on découvrait beaucoup de choses. dont on n'entendait pas forcément parler. Moi, je sais que quand on avait participé en seconde, du coup, je connaissais pas forcément Josephine Baker et son histoire. Et ça m'a permis, du coup, de découvrir le personnage et de savoir que c'était un symbole très important pour la France.
Je dirais que c'est la même chose pour moi. À vrai dire, on ne s'intéresse pas à tous les acteurs qui nous ont permis d'avoir une évolution dans le monde. Et le concours nous permet d'en apprendre davantage sur les personnes qui ont aidé. Comme par exemple Josephine Baker, on apprend que dans le monde, lors de la Première Guerre mondiale, elle a réussi à faire en sorte de récupérer des informations qui ont aidé du coup à la guerre mondiale.
Vous êtes allé il y a 2 ans à la Maison d'Izieux, c'était la récompense et le prix de ce concours Violette Maurice. Qu'est-ce que la Maison d'Izieux, 2 ans plus tard, quels souvenirs vous en avez ?
À vrai dire, c'était une sortie scolaire pour nous, une sortie scolaire en plus. J'en ai gardé des bons souvenirs. J'avais aussi gardé, c'était des petites photos. C'était en fait un musée et il y avait à l'intérieur, c'était une ancienne maison où il y avait un couple, un mari et une femme qui gardaient en fait les enfants, tous ceux qui, les réfugiés, les enfants, les petits, et ils avaient une très grande colonie réellement. Ils étaient peut-être, je pense, 15, une vingtaine d'enfants. Et chaque enfant, en fait, faisait des dessins et ils espéraient avoir un monde meilleur. Donc c'est aussi une opportunité pour nous de leur dire qu'ils ont réussi en quelque sorte. Que maintenant, on ne traite plus les personnes de la même façon. On a une certaine égalité entre les personnes. C'est comme si on était content et heureux de voir qu'on a évolué.
Alors même question, la maison d'Izieux, ça représente quoi ?
Moi, pour moi, c'était un souvenir très émouvant. Ce que j'ai vraiment apprécié lors de cette sortie, c'était lorsqu'en fait, on avait vu les lettres des enfants qui les avaient écrits. Ils écrivaient des lettres à leurs parents. Ils leur disaient qu'ils espéraient les revoir, qu'ils espéraient passer de meilleurs jours. Et on était vraiment immergés dans ce monde et on avait des frissons. Moi, j'avais la chair de poule, franchement, de voir comment c'était. Surtout qu'on avait vu que les personnages qui, comme Klaus Barbie, c'était la personne qui, du coup, a causé la mort de plusieurs enfants qui étaient réfugiés dans cette maison.
Alors, après cette visite-là, et comme aujourd'hui, est-ce que vous en parlez à la maison ? Est-ce que vous parlez du fait que bah, vous sortez aussi avec le lycée, que vous allez découvrir aussi un morceau d'histoire ?
C'est vrai que j'en parle car personnellement dans ma famille on n'a pas vraiment l'habitude de faire ce genre de sortie, même d'aller à la préfecture pour assister à une réunion. C'est vrai que j'en profite aussi pour dire que je suis devenue une personne célèbre, mais c'est vrai que j'en parle souvent. Et je suis aussi assez fière de dire que j'ai participé à un concours par la LICRA, qu'on aborde des thèmes qui ne sont pas souvent mis sur la table et que ça nous permet d'apprendre toujours plus sur le monde.
J'ai rencontré pour la première fois Jean Moulin dans le petit appartement de l'un de mes amis, 106 rue Pasteur à Lyon. Je ressens encore aujourd'hui l'impression de mystère, de grandeur et de confiance à la fois. Je ne savais pas évidemment quel était le véritable nom de celui qu'on appelait alors Régis, mais son titre de délégué du général de Gaulle lui donnait une importance de premier ordre à mes yeux et la valeur du symbole que nous cherchons tous, Paul Rivière.
Honnêtement, on a vu des journaux aussi. On a vu aussi le registre des déportés.
On avait les pas de Jean Moulin.
Par où il est passé, quelles actions ils ont fait. On avait aussi des parachutes quand ils ont été largués avec la mission Rex. On a vu aussi des vêtements aussi des déportés.
Une ancienne presse à genoux.
Ce sont des choses qu'on a pu voir en photo dans des livres, les livres d'histoire notamment. Les voir en vrai, qu'est-ce que ça fait en fait ? Est-ce que, voilà, quelle impression ça vous donne ?
Ça m'a permis d'être plus en immersion dans le thème. Surtout qu'on avait, on était rentré directement dans le thème un moment quand on descendait les escaliers dans une chambre. C'était vraiment en immersion. On a vu des machines pour la presse, pour imprimer les journaux.
On se sentait plus dans la peau de certaines personnes qui ont vécu certaines atrocités.
Oui, c'était impressionnant. Moi, personnellement, j'ai vraiment aimé l'exposition parce que ça m'a permis, avec le travail qu'on a fourni à la maison, ça m'a permis de mettre une image sur ce que j'avais écrit et sur ce qu'on avait travaillé là-dessus.
Alors, est-ce que c'est important de confronter finalement ce qu'on étudie à la réalité avec ces témoignages directs par ces objets, par ces mises en scène, etc.
Oui, il le faut. Comme ça, on a une image en tête et on peut se faire une représentation de ce que c'était un peu la vie qu'ils ont vécue. Et aussi, ça peut nous permettre de nous appuyer sur de faits réels, sur des choses qu'on a déjà vues. Et voilà, ça peut nous aider.
Alors cette période de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, elle représente quoi pour vous? Est-ce que c'est loin? Est-ce que c'est du passé? Est-ce que c'est des choses auxquelles on peut, vous pouvez penser régulièrement en se disant peut-être c'est pas si vieux que ça?
Avec le temps, on peut remarquer qu'il y a des choses qui ont évolué. Ça reste, on retrouve certaines tensions.
Ça reste dans la mémoire de tout le monde, surtout que c'était il y a moins d'un siècle. Et franchement, ça a marqué l'histoire du monde. Et honnêtement, c'est pas quelque chose qu'on pourra oublier, c'est quelque chose qui reste gravé dans la mémoire des gens et qui restera à vie. Quelque chose qu'on ne doit pas oublier et qu'on doit se rappeler tout le temps pour les générations futures.
Lorsqu'il tombe dans l'étang de Fontvieille, Jean Moulin est porteur d'un ordre de mission du général de Gaulle et de consignes d'action micro-photographiées qu'il cachera dans une boîte d'allumettes. Je désigne Monsieur Jean Moulin, préfet écrit le général de Gaulle, comme mon représentant et comme délégué du comité national français pour la zone non directement occupée de la métropole. Monsieur Moulin a pour mission de réaliser dans cette zone l'unité d'action de tous les éléments qui résistent à l'ennemi et ses collaborateurs. Monsieur Moulin me rendra compte directement de l'exécution de sa mission. Henri Michel.
Écoutons à présent la LICRA Saint-Étienne par la voix de sa présidente Florence Boudoussier à propos du prix Violette Maurice et cette visite au CHRD.
Alors ce prix Violette Maurice, donc c'était la 4e édition cette année, elle récompense le travail de toute une classe. Et en fait, ce sont des sujets qui sont proposés sur une personnalité qui a en fait mis sa vie, voire son œuvre au service des valeurs que défend la LICRA, donc l'humanisme, la solidarité. Et cette année était à l'honneur Victor Schœlcher. Donc des classes de cette année, pour la première fois des classes de CM2 ont participé, où en fait la question c'était c'est quoi pour toi l'esclavage, et qu'aurait répondu à ta place Victor Schœlcher, pour qui il travaille sur la personne elle-même. Et puis ensuite donc des classes de collège et de lycée, et la classe qui a été primée est une classe de terminale du lycée Honoré d'Urfé, dont le professeur est Madame Rabia Oudif.
Alors, c'est un prix qui s'ouvre à de plus en plus d'enfants, adolescents. Pourquoi aller à partir du CM2? Pourquoi vous êtes allé encore plus loin cette année?
Alors, ça fait déjà deux ans qu'on intervient dans les écoles primaires, parce que, moi je dirais, il n'y a pas d'âge. Pour parler de racisme et d'antisémitisme, il n'y a pas d'âge. Le tout, c'est de trouver les modalités. Alors évidemment qu'en primaire, on passe par autre chose, et on passe par un conte. On passe par un conte et on raconte la moitié du conte, et ensuite on demande aux élèves d'imaginer la fin et le titre. Parce qu'on ne leur donne pas le titre.
Alors depuis des années, ce prix Violette Maurice récompense les travaux de ses élèves. Est-ce que vous êtes surprise, et puis est-ce que vous êtes surpris tous au sein de la LICRA par les propositions?
Les propositions des élèves, ils sont très 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 inventifs aussi sur la façon dont ils vont présenter les choses, et ils prennent toujours très très à cœur les sujets. Bon, merveilleusement emmenés évidemment à chaque fois par le corps enseignant. Donc on arrive à avoir des travaux vraiment de qualité. Et cette année, ça a été très difficile de les départager.
Alors effectivement, cette année, chanson, c'est une première, hein, je crois, pour la chanson, BD, reproduction de journaux. Et tous ces prix ont été décernés dans les salons de la préfecture. C'est important aussi d'avoir le soutien de la préfecture.
Tout à fait. Donc c'est la troisième année maintenant qu'on est reçu à la préfecture, parce que la première fois, en fait, c'était en plein confinement. Donc on avait remis des récompenses et pas un prix vraiment, puisque puisque tous les élèves n'étaient pas sur le même pied d'égalité. En fait, ils n'avaient pas pu être préparés de la même façon. Mais pour la troisième fois, on est reçus dans la salle des fêtes de la préfecture. Et à chaque fois, pour les élèves, c'est la plupart du temps la première fois qu'ils pénètrent dans ce haut lieu de la République. Et c'est important que ce soit fait dans ce cadre-là, avec justement monsieur le préfet qui donne toute la tonalité institutionnelle et républicaine qu'il faut avoir par rapport à ce prix.
Alors aujourd'hui, c'est une sortie au Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation à Lyon. Les élèves du lycée Honoré d'Urfé, terminale et première, me semble-t-il, viennent ici avec l'envie de découvrir. Et ça, j'imagine que ça fait plaisir.
Oui, tout à fait, parce que c'est important que chaque élève, d'ailleurs c'est dans les règles, je dirais, du ministère de l'Éducation, que l'objectif, hein, c'est que chaque élève de, je ne sais pas si ça commence en primaire, mais en tout cas de collège et lycée, pendant son cursus, ait visité au moins un lieu de mémoire. Et nous, ce qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on organise donc une visite pour les élèves. Donc, il y a 2 ans, c'était à la maison d'Izieux. L'année dernière, c'était le lieu de mémoire du Chambon-sur-Lignon. Et cette année, au Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon.
Alors, pourquoi ce choix cette année ?
Alors, pourquoi ce choix cette année ? On a essayé de diversifier, mais il ne faut pas non plus diversifier pour diversifier. Mais c'était un lieu de mémoire important pour la région. Et puis, en plus, avec l'exposition... Sur Jean Moulin, l'exposition temporaire sur Jean Moulin, c'était une exposition importante pour les élèves.
Cet homme, jeune encore, mais dont la carrière avait déjà donné l'expérience, était pétri de la même patte que les meilleurs de mes compagnons. Rempli jusqu'au bord de l'âme, de la passion, de la France, convaincu que le gaullisme devait être non seulement l'instrument du combat, mais encore le moteur de toute rénovation. Pénétré du sentiment que l'État s'incorporait à la France libre, il aspirait aux grandes entreprises. Mais aussi, plein de jugements, voyant choses et gens comme ils étaient, c'est à pas compter qu'ils marcheraient sur une route ruinée par les pièges des adversaires et encombrée des obstacles élevés par les amis, général de Gaulle.
Alors là, il entre de plein pied dans la politique parce qu'il fait partie du cabinet de Pierre Cotte, qui est le ministre de l'Air. Alors, il faut dire que Jean Moulin appartient à une famille très républicaine, laïque. Et pour lui, le Front populaire, c'est une véritable victoire. Et donc, à partir de là, il ne va plus quitter la politique. Et puis, il va être d'abord préfet adjoint, puis préfet, notamment de l'Aveyron, de l'Eure-et-Loire, ainsi de suite. Alors, c'est à ce moment-là qu'arrive la guerre. Et donc, la défaite de la France. Tout ça, vous l'aviez vu déjà, non ? Vous l'avez intégré un peu ?
Je trouve ça assez intéressant de connaître plein de choses en plus. Parce que là, du coup, il y a un ancien professeur d'histoire qui nous explique plein de compléments. Donc certes, on peut lire certaines choses, mais on a les informations qui sont complémentaires.
Alors qu'est-ce qu'on découvre dans cette visite-là ? Explique-nous un peu les différentes pièces, en gros. Hein.
Et on débarque dans une ancienne salle qui avait été occupée justement par le chef de la Gestapo lyonnaise, où il y a eu des résistants qui étaient torturés, donc c'est quand même une pièce qui est assez marquante. Et après, c'est du coup dans un sous-sol, et il y a du coup des expositions avec des images, des vestiges, disons, de la Seconde Guerre mondiale.
Alors pour toi, Jean Moulin, il représenterait quoi ? Comment te l'as expliqué ? Comment tu l'as étudié ?
Moi, j'estime qu'il représente la résistance, le combat qui dure jusqu'à la fin, où il donne tout jusqu'à sa mort, et donc le fait de jamais rien lâcher, et de résister le mieux qu'on le peut, avec toute la fierté qu'on peut avoir, et dans un but précis, dans le cas là, c'était de sauver la France.
Très régulièrement, nous le voyons à peu près une fois par mois, et chaque fois nous étions sidérés par la clarté des instructions qu'il nous donnait, des ordres très précis, il rentrait dans les détails des choses, et il pensait à notre place, et nous le suivions absolument de manière aveugle, absolument complète, totale.
Visite donc du CHRD, le Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation à Lyon, et l'exposition Jean Moulin, les Voies de la Liberté, avec Jackie Nardou, ancien enseignant et aujourd'hui historien. Rencontre autour de Jean Moulin.
Alors Jean Moulin, c'est un personnage que on considère comme, on pourrait dire, le père de la résistance, un véritable symbole dont on nous a parlé depuis le lycée et qui est un personnage tout à fait important puisque, représentant le général de Gaulle, il était envoyé en France pour unir la résistance, tâche extrêmement difficile. Alors c'est vrai que Jean Moulin, c'est un personnage en multiples facettes. C'est d'abord un homme qui est entré de plein pied dans la politique, puisque il va être chef de cabinet, sous-préfet, préfet. Et puis une autre facette, c'est celui bien entendu de résistant, celui qui va essayer d'unir la résistance, tâche extrêmement difficile, mais aussi c'est un artiste en quelque sorte, puisque il dessine très bien et pendant la guerre, il va même ouvrir une galerie d'art à Nice.
Alors nous sommes ici au Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation à Lyon. Un surnom est important, c'est celui de Rex.
Alors, tous les résistants avec des noms de guerre, et comme vous le dites, nous sommes dans un lieu que je qualifierais de mythique, puisque c'est dans ce lieu, qui est aujourd'hui le Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation, qui était l'école de santé militaire, et qui fut, à partir de l'occupation allemande, donc au printemps 1943, le siège de la ZIPO-SD et d'un personnage tristement célèbre, Klaus Barbie.
Alors Klaus Barbie qui découvre Rex dans les geôles et les sous-sols de ce lieu.
C'est vrai que le 21 juin 1943, dans la maison du docteur Dugoujon à Caluire, une rafle est organisée. Rafle, bien entendu, qui ne peut avoir comme origine qu'une dénonciation. Et donc, on va arrêter environ une vingtaine de personnes. Et Klaus Barbie, à ce moment-là, ne sait pas qu'il détient celui qui est l'unificateur de la résistance sous le nom de Rex. Et bien entendu, qu'il va découvrir peu à peu. Et bien entendu, à partir de ce moment-là, il va essayer de le faire parler sous la torture.
Eh bien, vraiment, il n'avait pas de vocation très définie. Mon frère était un peu un rêveur, il ne s'inquiétait pas trop de l'avenir. Son père s'en souciait davantage pour lui. Or, mon père eût voulu lui-même, étant jeune, embrasser la carrière préfectorale. Son plus grand ami était devenu préfet de la Seine pendant très longtemps, il s'appelait Monsieur Autran, ça se passait il y a 25 ou 30 ans de ça. Et alors, mon père étant conseiller général, vice-président du conseil général à Montpellier, pendant la guerre, un jeune gens pour la vocation, et un préfet lui dit « Mais que faites-vous de votre fils ?» D'ailleurs, mon père avait bien cette idée derrière la tête. Alors quand il le dit à mon frère dit « Ma foi, ça aussi bien qu'autre chose. »
Et c'est ainsi que Jean Moulin est devenu préfet. Merci, mademoiselle.
Monsieur le Président de la République, voilà donc plus de 20 ans que Jean Moulin partit par un temps de décembre, sans doute semblable à celui-ci, pour être parachuté sur la terre de Provence et devenir le chef d'un peuple de la nuit. Sans cette cérémonie, combien d'enfants de France saurait-il son nom? Il ne le retrouvera lui-même que pour être tué et, depuis, sont nés 16 millions d'enfants. Puissent les commémorations des deux guerres s'achever aujourd'hui par la résurrection du peuple d'ombre que cet homme anima. Qu'il symbolise et qu'il fait entrer ici comme une humble garde solennelle autour de son corps de mort. André Malraux.
Et tout le monde parle du charme de Jean Moulin. Vous sentiez ce charme?
Oh, il avait un très grand charme. Je l'ai vu charmer les gens les plus divers. Je l'ai vu charmer un préfet vichysois. Je l'ai vu charmer un vieux bouquiniste très dur à la détente. Nous étions en train d'acheter sa boutique et il l'a cherché à nous rouler à la dernière minute. Avec 10 minutes de conversation, il l'a retourné complètement. le notaire, tous les gens étaient charmés par cet homme et tout le monde dit, mais que fait-il, mais que fait-il? Et c'était difficile de répondre, il plante des melons à Cavaillon.
Après avoir étudié Jean Moulin dans le cadre de cette sortie scolaire, qu'est-ce qu'on apprend en plus aujourd'hui?
Il a donné des petites anecdotes et tout sur sa vie, qui étaient bonus, on va dire, et c'était intéressant, surtout sur son enfance, parce qu'en général, quand on parle de Jean Moulin, c'est plus ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, et pas trop son enfance.
Alors, il y a dans cette exposition quelque chose effectivement de rare et qu'on connaît très peu, c'est ses talents de dessinateur avec ses caricatures, ses croquis. Est-ce que tu les as vus?
Oui, je les ai vus. Et c'est vrai qu'il dessinait bien. Il dessinait un peu des gens comme ça. Il a dessiné une salle de classe à un moment avec des airs de caricature.
Alors si l'on reste dans cette exposition-là aussi, il y a différents objets qui sont exposés, son manteau célèbre, des photos, etc. S'il y a quelque chose qui t'a marqué, ce serait quoi?
Moi, c'est son képi, parce que je ne savais pas qu'à l'époque, les préfets ils avaient des képis qui ressemblaient autant à ceux des militaires.
Fin de cette visite au CHRD de Lyon, le Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation. C'était bien sûr les lauréats du prix Violette Maurice 2024 qui ont pu participer à cette visite, et notamment Gauthier qui a gagné, grâce à cette chanson que vous allez entendre, le prix Violette Maurice de la Licra Saint-Etienne sur Victor Schoelcher, rappelons-le, sous-secrétaire d'État aux colonies, qui a rédigé et signé le décret d'abolition de l'esclavage par l'État français le 27 avril 1848.
De la Martinique à l'Hexagone, son engagement contre l'oppression reflète son combat sans fin contre toute forme d'exploitation. Victor sait qu'à servir pour s'enrichir n'est pas la solution. Schoelcher sait que parfois faut user de la révolution. Les chaînes ont chuté, se sont brisées par ses déclarations. Devant l'assemblée, ce héros discret de la nation déclame un discours humaniste pour les futures générations. Un texte qui est gravé dans le marbre de la Constitution. À travers les âges, les mots de Victor fortement résonnent. En 1848, la voix de Schoelcher au Parlement détonne. Liberté, égalité, fraternité, ce député français a tous questionné. Pour les valeurs et progrès de la dignité humaine, il se passionne. Sa lutte acharnée contre l'abolition de l'esclavage impressionne. À travers les âges, son engagement humaniste toujours rayonne. À l'espoir d'une vie sereine, sans discrimination ni ségrégation. Succès dans la déception, la frustration et l'indignation. Dans ce monde moderne, la liberté pleure de rage et d'irritation. Elle pleure l'absence, la peine, la souffrance et la privation. Les chaînes ont changé, se sont adaptées à de villes traditions. L'héritage de Schoelcher vacille dans le tourment de nos civilisations. Flamme meurtrie par les vestiges de son colonisation. Encore bafouée par l'égoïsme des cupides sans inspiration.
Schoelcher au Parlement détonne. Liberté, égalité, fraternité, ce député français à tous questionne. Pour les valeurs et progrès de la dignité humaine, il se passionne. Sa lutte acharnée pour l'abolition de l'esclavage impressionne. À travers les âges, son engagement humaniste toujours rayonne. Victor, belle plume affûtée dans un monde d'acier, trace des chemins vers la liberté sur un nombre de papiers. Dans les rues de Paris ou à l'ombre des plantations, il a prié. Dans la métropole ou les colonies, jamais il ne peut oublier. Au nom de la dignité, Schoelcher s'est donné pour mission de pousser les hommes, tous les hommes à la réflexion. Sur la population, il sème les graines de l'émancipation, faire en voir secourir le monde de sa salvatrice libération. À travers les âges, les mots de Victor fortement résonnent. En 1848, la voix de Schoelcher au Parlement détonne. Liberté, égalité, fraternité, ce député français à tous questionne. Pour les valeurs et progrès de la dignité humaine, il se passionne. Sa lutte acharnée pour l'abolition de l'esclavage impressionne. À travers les âges, son engagement humaniste toujours rayonne.
Les âges, les mots de Victor fortement résonnent. En 1848, la voix de Schoelcher au Parlement détonne. Liberté, égalité, fraternité, ce député français à tous questionne. Pour les valeurs et progrès de la dignité humaine se passionne. Sa lutte acharnée pour l'abolition de l'esclavage impressionne. À travers les âges, son engagement humaniste toujours rayonne. France, terre de victoire et des droits de l'homme sera action. Face de lointaines, proches et intimes exactions. Des sociétés amies ou ennemies, aucune sanction. Comment obtenir, chercheur, une éventuelle bénédiction. Dans l'ombre de la détresse humaine, nulle improvisation. Au verbe citoyen, provoquer la dense mobilisation. L'injustice effervescente gronde et doit faire sédition. Dans le vacarme de l'asservissement, enfle la contestation. À travers les âges, les mots de Victor fortement résonnent. En 1848, la voix du chercheur au Parlement détonne. Liberté, égalité, fraternité, ce député français tout questionne. Pour les valeurs et progrès de la dignité humaine, il se passionne. Sa lutte acharnée pour l'abolition de l'esclavage impressionne. À travers les âges, son engagement humaniste toujours rayonne. Face à la liberté violée, jamais Victor Schoeschler n'abandonne. Face à l'égalité piétinée, jamais sa voix ne reste monotone. Face à la dignité humaine, jamais l'âme lésée ne pardonne. Face à la fraternité négligée, jamais l'ami ne fanfaronne. Aujourd'hui, comme hier, élevons nos voix sans rime ni détour. Apportons au timbre affranchisseur de Victor notre concours. À la jeunesse soutenue par la sagesse baignée d'amour. Schoeschler guide-nous au rythme de tout. À travers les âges, les mots de Victor fortement résonnent. En 1848, la voix de Schoeschler au Parlement détonne. Liberté, égalité, fraternité, ce député français tout se questionne. Pour les valeurs et progrès de la dignité humaine se passionne. Sa lutte acharnée pour l'abolition de l'esclavage impressionne. À travers les âges, son engagement humaniste toujours rayonne.